Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, il est 6h, 6h avant minuit, vous êtes bien sur Syllab, sur votre émission d'actu locale préférée, enfin, je l'espère. Avec moi, dans ce studio, tous les soirs, j'apporte ma petite gourde. Une gourde en verre, je précise. Oui, parce que j'ai lu, entendu, vu des études, des journalistes, des experts et des expertes raconter que l'eau provenant des bouteilles en plastique, eh bien, elle est pleine de microplastiques. En plus, l'eau en bouteille, ça coûte hyper cher. Enfin bref, l'eau du robinet, une valeur sûre pour moi, qui ai vécu près d'un lac de montagne et bu de lui toute ma vie. Pourtant aujourd'hui, j'ai lu le rapport de l'ONG Génération Future. Douche froide, je me suis liquéfiée. Des dizaines de molécules issues de la dégradation de pesticides, donc potentiellement toxiques, ne font l'objet d'aucune, mais alors aucune surveillance des autorités. Et ce, partout en France. Le liquide cristallin dans ma Sisène gourde en verre vient probablement d'eau souterraine empoisonnée. Bon, je ne vais pas me plaindre, l'eau non potable, c'est toujours mieux que pas d'eau du tout. Hein, parce que dans 20 ans, il n'y en aura plus, comme disait l'autre. Bon, ben, à la vôtre. Tout de suite, le flash débat.
Emmanuel Macron lance un avertissement à Benjamin Netanyahou depuis son conseil des ministres. Pour le président français, le premier ministre israélien ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Une allusion au vote de novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies du plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Des propos intervenant dans un contexte de forte tension entre Israël et le FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Cette dernière a fait état dimanche dernier de l'entrée de deux chars israéliens au sein d'une de ses positions. 600 employés argentins ont changé l'avenir de milliers de patients hospitalisés à Laura Bonaparte. Face aux coupes budgétaires annoncées par le président argentin Javier Milei, le gouvernement avait annoncé la fermeture de l'unique hôpital national de santé mentale en septembre dernier. Mais le personnel de santé en a décidé autrement. Plusieurs manifestations ainsi qu'une mobilisation de 4 jours à l'hôpital même ont eu lieu la semaine dernière. Face aux critiques du milieu de la santé mais aussi du peuple argentin, le gouvernement a finalement fait marche arrière et les 17 000 patients de Laura Bonaparte en sont ravis. Un sujet qui donne mal au crâne, vendredi, Sanofi a annoncé vouloir s'engager dans la cession de 50% du capital d'Opella, sa filiale de santé grand public, détenant notamment les marques Doliprane et Lisopaïne. Le potentiel repreneur CD&R est un fonds d'investissement américain ayant déjà racheté deux groupes français.
Mais pourquoi Sanofi veut revendre Opella, sa filiale de santé grand public ? Et ce, quand bien même elle détient Doliprane, avec ses 453 millions de boîtes vendues par an, médicament le plus délivré en France. Bah, en fait, ce projet, il date pas d'hier. Dès octobre 2023, le groupe a annoncé son intention de se séparer de ses activités grand public et a accéléré la restructuration de son portefeuille. De 251 marques à la fin 2020, il n'en compte plus que 115 aujourd'hui. L'entreprise souhaite développer ses investissements en vaccins et en médicaments innovants. Vendus, eux, dans le monde, à l'inverse de notre Doliprane national. Comme le Dupixent, prescrit pour l'asthme et vendu 600 euros l'injection. Solution qui devrait générer plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Pas bête quand on sait que les polluants particuliers présents dans l'air exercent un effet exacerbateur sur l'asthme. Première maladie chronique de l'enfant dans les pays développés. Pollution environnementale, qui serait à l'origine de 3,7 millions de décès prématurés dans le monde et principale cause de décès par cancer.
Et ces médicaments innovants, ils ont eu besoin de recherche pour être conçus.
En effet, Eva, Sanofi est depuis des années le premier bénéficiaire du crédit impôt recherche. En 10 ans, l'entreprise a touché quelque 1,5 milliard d'euros par ce biais. Ce qui ne l'a pas empêché de supprimer massivement des emplois dans ses centres de recherche et développement français. Centres ensuite délocalisés dans des pays européens à bas coût comme la Slovénie et la Roumanie. Longtemps présenté comme le leader mondial des vaccins, le groupe a été incapables de mettre au point un vaccin contre le Covid en temps voulu.
Et les Américains de CDR, ils comptent faire quoi d'Opella ?
Bah, en fait, on ne sait pas trop. Pour l'instant, Sanofi assure qu'il n'y aura aucun impact sur les emplois, sur les sites industriels en France ou sur l'avenir du Doliprane. Promesse qui reste quand même discutable. CDNR étant un fonds habitué aux opérations les plus classiques de rachat avec effet de levier, Leverage Buyout, LBO, pour les fins et fines connaisseurs et connaisseuses de marketing et d'économie.
Mais c'est quoi ?
Bah, en fait, c'est une technique financière qui consiste à acheter une entreprise en l'endettant. Tout l'enjeu est ensuite que l'entreprise dégage suffisamment de trésorerie pour rembourser la dette. Autrement dit, une justification pour supprimer des emplois et délocaliser la production dans des pays moins coûteux. De quoi inquiéter cette fois non pas les chercheuses et les chercheuses françaises et françaises, mais les ouvriers et ouvrières des usines françaises Sanofi. On n'est pas dupes. Ces gens sont là pour faire de l'argent et non du social, résume Anthony Guérin, un ouvrier gréviste de l'usine à Lisieux dans le Calvados.
Fake news ou réalité, une enquête est ouverte à l'encontre de Kylian Mbappé en Suède. Le joueur français est suspect dans une affaire de viol. Le footballeur dénonce une fake news faisant son apparition à la veille d'une audience de la commission de la Ligue de football professionnel. Un litige financier l'oppose en effet au PSG. Didier Deschamps, entraîneur de l'équipe de France, regrette de son côté les conséquences que cette affaire pourrait avoir sur l'équipe de France. Parlons café dystopie, non, plutôt
l'inverse.
Est-ce qu'on n'aurait pas un petit PAD café utopie?
La crème salvette de la nouvelle café utopie est bondée ce midi. Entrée, plat, dessert, végétarien ou anti-gaspi, il y en a pour tous les goûts. Yala Landoutessi est étudiante à Rennes 1.
Bah, les sandwichs, pour le prix, c'est convenable, c'est un bon rapport qualité-prix.
Elle et son groupe d'amis viennent tous les lundis. Pour elle et eux, la Café Utopie, c'est beaucoup plus rapide que le restaurant universitaire. Pourtant, Phoebe Jolica regrette un peu le crous.
C'était dommage qu'il n'y ait pas, pour les personnes boursières, un menu spécial à 1€, quoi.
Laurette, étudiante, apprécie un point en particulier dans la cafette.
Surtout le fait de pouvoir réchauffer nos plats dans les micro-ondes. Ben, ça apporte un plus.
Utopie tente de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Charles, salarié, apprécie cette ambiance de travail bienveillante.
J'aime ce que je fais, accompagner aussi, j'aime faire ça. Et même si la personne est en difficulté, on aime bien aussi l'accompagner et on prend le temps aussi à la personne qu'elle prenne confiance. Je pense que toute personne peut réussir, même si elle est en difficulté.
Audrey Goël, chef de service.
Alors le principe, c'était effectivement de se mettre dans les universités, en fait, là, on a 3 cafétérias. Et donc, c'est pouvoir effectivement mettre effectivement une activité au sein des établissements universitaires en mettant des personnes en situation de handicap. Là, c'est offrir une offre alimentaire, soit à des salariés, soit aussi à des étudiants.
En plus de ça, le lieu a pour objectif de proposer le plus de produits locaux possible.
Il y a une histoire de rentabilité aussi. Donc, effectivement, du bio, quand on fait des menus pour des étudiants à 3,85€, vous comprenez bien que le bio, on ne peut pas en mettre. Donc on essaye effectivement de mettre au maximum de produits qui sont locaux et ces maisons. Après, c'est vrai que si les étudiants veulent des menus à 1€, nous, on n'a pas la capacité, on n'a pas les subventions de l'État pour faire des menus à 1€.
Cette Café d'Utopie est la troisième du genre à Rennes.
En pleine escalade de la violence liée au trafic de stupéfiants, la ville de Rennes tente de régler le problème à la source. La métropole met en place un nouveau dispositif à destination des plus jeunes. Animateurs, enseignants et même parents seront briefés sur le fonctionnement du narcotrafic. Les enfants, du CM1 à la 6e, seront eux aussi sensibilisés face à cette dure réalité. Relax général lors du procès des 6 jeunes teufeurs de Lyon. Hier, les organisateurs d'une rave party datant du nouvel an 2021 sont repartis sans sanction. Ils étaient jugés par le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir enfreint le couvre-feu lors de la crise sanitaire. Leur bamboche avait réuni pas moins de 2500 personnes. On embarque toute la famille, les petits comme mamie et papy, pour découvrir le festival Marmaille. Il commence aujourd'hui et se finit mercredi 23 octobre prochain. Des expositions, du cinéma, du théâtre et des marionnettes, que demander de plus à part l'adresse et les horaires? Ça se passe salle Guy Ropartz à Rennes. Et pour les horaires des 21 spectacles, je vous laisserai vous renseigner sur le site internet de l'association organisatrice Lilico.
Merci Eva pour ce flash. Je crois que tu as un invité ce soir, Aglaé, c'est bien ça?
Tout à fait. Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lunettes noires, pull bleu qui a l'air bien chaud, pas de doute, nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Danier. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le cofondateur du journal Pont Neuf, c'est bien ça ?
C'est bien ça, le Pont Neuf, oui.
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Pont Neuf, est-ce que vous pourriez nous le présenter ?
Donc c'est un journal qui a été créé il y a 20 ans, c'est pour ça qu'on fête nos 20 ans demain soir, enfin demain après-midi même, qui a été créé à l'initiative du comité de quartier de Clonay, et en partenariat avec la MJC à l'époque, aujourd'hui Antipode, avec le Centre Social, le Comité de Quartier Arsenal Redon, le Cercle Paulbert et les Trois Maisons. Voilà.
Donc demain, vous fêtez les 20 ans du journal. Est-ce que vous avez prévu, enfin, qu'est-ce qui est au programme ?
Alors, au programme, à 15h, un atelier écriture, avec pour nous l'objectif de recruter des nouveaux journalistes, bon, sans leur forcer la main. On va d'abord s'amuser un peu avec eux, ou les laisser s'amuser autour d'une formation plutôt ludique. Voilà. Et ensuite, on aura un débat à 18h animé par Ouest France avec d'autres journaux de quartier. Alors je dis bien d'autres, je ne suis pas sûr qu'on ait retrouvé tous les journaux de quartier, donc il y en aura 3 ou 4 plus nous. Donc là aussi, un peu savoir comment eux fonctionnent. Comment nous on fonctionne, comment eux fonctionnent, quels sont leurs atouts, leurs faiblesses, leurs difficultés, sachant que nous, on arrive à nos 20 ans, et 20 ans, moi j'en ai 70 aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'être encore là dans 20 ans. Donc il faut trouver des relais. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des relais auprès des nouvelles associations du quartier. Il y en a beaucoup sur notre quartier, aussi bien celui de la Courrouze que celui de Clonay, que celui d'Arsenal Redon d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'idée du débat, quoi. C'est d'échanger autour de la manière d'écrire avec les habitants. Parce que nous, on écrit avec les habitants. On est tous des journalistes amateurs, même si on peut avoir les uns ou les autres un passé professionnel pas loin du journalisme, ce qui est mon cas.
Et donc, est-ce que vous proposez, donc en plus de la petite formation qui sera proposée demain, est-ce qu'au cours de... des années, vous proposez des formations pour les bénévoles.
Alors, les formations, nous, elles se font plutôt sur le tas. C'est-à-dire que le principe, c'est que... Alors, on est organisé autour d'un comité de rédaction, donc qui est ouvert à tout le monde, et un comité éditorial qui est composé des associations. Donc, on n'est pas obligé d'être adhérent d'une ou l'autre des associations pour écrire. Donc, il y a des gens qui vont nous proposer des articles, en disant, ça serait bien que vous écriviez là-dessus. Donc, on peut les écrire. Ou alors, on leur dit, écrivez un article, venez nous le proposer, et puis on va leur travailler avec vous. C'est comme ça qu'on travaille, quoi.
Mm-hmm. Combien de bénévoles y a-t-il dans la rédaction ?
Alors, actuellement, on est une douzaine. Alors, ça varie entre 8 et 15. Actuellement, on est une douzaine. J'ai compté avant de venir. On est 13, exactement. Dont 5 personnes de moins de 50 ans. Ça veut dire qu'on est majoritairement cheveux blancs.
Voilà. Et est-ce que vous mettez du coup des choses en place pour attirer un peu plus les jeunes dans la rédaction ?
Oui. Alors, sachant que ce n'est pas facile, c'est-à-dire que la manière d'attirer les jeunes, c'est le bouche à oreille, très clairement. Ce sont les articles. Donc, on a la chance quand même d'avoir dans le comité de rédaction quelqu'un de la MJC Antipode. Donc, qui travaille beaucoup avec les jeunes et donc qui nous amène effectivement beaucoup d'articles sur les problématiques des jeunes. Bon, ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas en chercher aussi.
Et est-ce que, du coup, pour séduire un peu plus les jeunes pour qu'ils rentrent au Pont Neuf, l'idée de développer des réseaux sociaux ou un site web, enfin quelque chose de plus multimédia, c'est quelque chose qui est en vue.
Ça, on y a beaucoup réfléchi et ça va faire l'objet du débat demain soir d'ailleurs, parce qu'on a un site qu'on a ouvert juste pendant le Covid, parce que là on s'est aperçu que la veille du Covid, on devait envoyer notre journal en impression la veille du confinement. Donc on est resté bloqué quasiment pendant 6 mois, 1 an, et on s'est dit là c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un site. Donc on a un site, mais on a du mal à le faire fonctionner, parce que c'est pas du tout le même travail en fait. C'est-à-dire que nous, on a un journal qu'on publie, alors au début on le publiait 3 fois par an, maintenant c'est 2 fois par an, on le sort à 10 500 exemplaires, et sur 16 pages ou 20 pages, celui-ci est 20 pages. Donc, mais par contre, on ne traite pas d'actualité, sur un journal comme ça, on ne traite pas d'actualité. Alors que sur le site, il faut avoir quasiment des articles toutes les semaines. Donc on a effectivement sur notre site une revue qui s'appelle Entre deux ponts, qui remplace le troisième numéro qu'on a supprimé, le numéro qui paraissait en juin. Et donc, effectivement, ça, c'est plutôt pour mettre des comptes rendus, des événements festifs de l'été, quoi. Mais on n'a pas vraiment, ni la volonté d'ailleurs, on en est conscient de la problématique. Alors, on a fait un sondage quand même au niveau du quartier, et les gens nous demandent du papier. Alors, ce qui va être marrant, c'est que demain soir, il y a une association qui vient, qui a un site internet, qui a fait exactement l'inverse de notre travail. C'est-à-dire, elles ont un site internet avec des personnes qui écrivent, avec des podcasts, avec des vidéos. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à créer un journal. Donc, c'est ça l'intérêt du débat qu'on va avoir demain soir. Est-ce qu'il faut aller vers le papier? Est-ce qu'il faut aller vers Internet? Et comment toucher un maximum de personnes, soit par l'un ou l'autre des médias, sachant que l'un ou l'autre des médias, ce n'est pas le même travail. Et ce n'est surtout pas le même investissement. Pour écrire les articles, là, bon, c'est quand même pas trop, ça demande pas trop de temps aux personnes. C'est, pour nous, c'est trois réunions, quatre réunions. Une où on fait le bilan de numéros précédents, une où on décide aussi des articles. Ensuite, la deuxième réunion, on relie les premiers articles qui arrivent. La troisième réunion, on relie les autres qui arrivent quasiment les derniers. Et après, il y a la relecture de la maquette, quoi. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a un professionnel qui travaille avec nous sur la maquette. Qui travaille bénévolement avec nous.
Et en soi, ça paraît plutôt logique d'avoir un journal qui est papier pour la presse régionale, enfin locale, étant donné quand on voit Ouest France, qui est le journal le plus tiré, c'est un journal qui est plutôt d'actualité locale.
Oui, okay. Oui. Alors, Ouest France aujourd'hui est papier et internet, puisque moi j'ai les deux, donc j'ai papier et puis Ouest France internet. Mais effectivement, les gens attendent le journal, très clairement. Hein, donc, et on a pas mal de retours par le courrier des lecteurs. Donc, ça fait partie effectivement des questions qu'on va poser demain sur la suite. Hein. Donc, nous, on est, ma génération, on est plutôt partisans de continuer le papier. Les gens qui distribuent, parce que ça, je ne l'ai pas dit, on a quand même une quarantaine de personnes qui distribuent le journal dans les boîtes aux lettres. Et ça fait partie de l'animation du quartier. C'est clair qu'aussi, c'est une manière d'impliquer les habitants. Et on a quand même une quarantaine d'habitants qui distribuent. Alors, ce n'est jamais les mêmes, ce n'est pas toujours les mêmes, mais depuis 20 ans. Voilà.
Et donc, il a une place importante dans les quartiers, ce journal. Comment est-ce que vous expliquez potentiellement cet intérêt?
Alors, comment on l'explique? Alors, c'est toujours difficile parce qu'on est jugé parti. Nous, on l'explique parce qu'il y en avait eu un qui existait avant, qui s'appelait Clenet Info, qui était le journal du comité de quartier, qui s'est arrêté faute de combattants. Et donc, c'est pour cette raison-là que lorsqu'on a relancé ce journal-là, on s'est mis en inter-associatif. Donc on a associé les associations dont je vous ai cité tout à l'heure. Et donc pour moi, c'est une des clés de la réussite. C'est-à-dire ça a ouvert le potentiel de rédacteur et le potentiel de sujet. Le centre social, j'ai dû oublier de citer le centre social d'ailleurs tout à l'heure. Le centre social en fait partie aussi. Donc ça nous permet de toucher des gens plutôt donc, qui sont des gens qui vont au centre social. La MJC, là, c'est plutôt pour toucher des jeunes. Et puis, les trois maisons, là, on est plutôt sur des... Trois maisons, il y a 650 adhérents, donc c'est quand même des grosses structures, quoi. Et le Serre Paulbert, ce sont les sportifs, quoi. Donc ça nous permet d'avoir un éclairage relativement exhaustif sur le quartier. Et aujourd'hui, effectivement, notre objectif, c'est d'aller vers les nouvelles associations qui, elles, travaillent sur d'autres sujets, donc cantines... associative, il y a le cirque aussi, travaille sur le cirque, y compris on a la belle déchette qui s'est implantée chez nous, qui s'appelle pas la belle déchette d'ailleurs, ça doit être, je sais plus le nom. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, et donc c'est avec eux qu'on souhaiterait travailler aujourd'hui.
Et est-ce que vous avez potentiellement une politique éditoriale ou...
Oui, on a une charte.
Okay.
On a une charte qu'on a rédigée avant de lancer le premier journal. Ça tient sur une page, hein, c'est très court.
Donc, est-ce que vous
donc la charte, c'est effectivement, donc on est un journal libre, on n'est pas un journal politique au sens partisan du terme, on est un journal politique au sens gestion de la cité. C'est-à-dire on s'intéresse à ce qui se passe dans la ville, on s'intéresse à ce qui se passe sur le quartier. Donc si on a envie de critiquer la ville ou de critiquer l'une ou l'autre, on peut le critiquer. On a des articles qui s'appellent des articles pour la gratter, par exemple, même si on est financé par la ville. Et là aussi, c'est un point que je n'ai pas développé, mais qui me paraît important, c'est le financement. On est financé de trois manières. Au départ, on avait un tiers de publicité pour ne pas être dépendant de la publicité. un tiers associatif pour impliquer les associations, parce que quand on paye, on s'implique souvent un peu plus, et un tiers ville de Rennes. Donc aujourd'hui, ça a un peu bougé, la ville de Rennes finance de moins en moins. Et donc, on a aligné aussi les associations sur ce que met la ville de Rennes. Donc, ça nous oblige à aller chercher un peu de publicité. Mais comme le journal est de qualité, on n'a pas de mal à trouver de la publicité, sachant qu'on la limite. C'est-à-dire qu'on ne met pas plus de 10 publicités pour un journal de 16 pages. Et si on fait un journal de 20 pages, on a le droit d'aller jusqu'à 14. On ne peut pas demander à des bénévoles, des habitants du quartier, d'aller diffuser un journal publicitaire. Donc, on fait très attention à ça, quoi.
Et donc, vous disiez que les subventions sont un peu en baisse. Est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés ?
Alors, on n'a pas de difficultés de financement. On a même une trésorerie, hein, donc on n'a pas de difficultés de financement. On n'a pas de difficultés à trouver des articles, puisqu'on a démarré, au départ, on était sur 8 pages. Et là, maintenant, on est passé à 12, après on est passé à 16, et là, on est arrivé à 20. Peut-être le prochain numéro fera sans doute que 16, parce que c'est plutôt le format habituel. Donc, on n'a aucune difficulté à trouver des articles. Alors, souvent, la première réunion de relecture, il n'y a que deux ou trois articles, parce que, on sait très bien que c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on écrit toujours à la dernière minute. Donc, on les a tous en dernière minute. La difficulté qu'on a, y compris maintenant, c'est quand même de trouver des nouveaux rédacteurs, quoi. Puisqu'on est descendu à 12 et on estime, enfin 10-12, et on estime que le bon format c'est 15. À la fois pour avoir de la diversité dans les rédacteurs, diversité des articles, quoi. Et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, on est quand même, les jeunes sont minoritaires. Alors ça, on le comprend que les jeunes puissent être minoritaires parce que la disponibilité n'est pas la même. C'est-à-dire quelqu'un qui est étudiant, ça vous savez de quoi je parle, on a aussi autre chose à faire, quoi. Donc on vient de temps en temps écrire un article pour le journal, quoi. Mais c'est pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, si vous avez de venir qu'une fois, venez une seule fois. Si vous voulez venir un an, vous venez un an. Si vous voulez venir 10 ans, vous venez 10 ans. Moi, quand j'ai commencé, je ne pensais pas arrêter 20 ans, faut être clair.
Et en 20 ans, les quartiers ont dû bien changer. Quelles sont les évolutions que vous avez pu noter ?
Alors, quand vous dites bien changer, c'est énormément changé.
Sont méconnaissables.
Méconnaissables. Méconnaissables. On a démarré, effectivement, la Courrouze n'existait pas. Quand on a démarré, le quartier de la Courrouze n'existait pas. Il était en débat, puisqu'on a même travaillé, d'ailleurs, on était dans le groupe de concertation avec la ville sur le choix des architectes. Donc on avait été associés, à la réflexion sur ce quartier-là. On avait demandé d'être associé, on l'a été. Et maintenant, le quartier de la Courrouze, il n'y a pas loin de 10 000 habitants, quoi. Et donc, nous, on distribue sur quasiment 50% des immeubles, en fait. Donc là, on a aussi un peu de mal à aller chez tout le monde, parce que c'est un quartier en émergence. Donc là aussi, les habitants ne sont pas les mêmes que ceux de Clunet. Clunet a une grande histoire de lutte sociale, de lutte... c'est un comité de quartier qui a fêté ses 60 ans cette année. Donc il s'est toujours un peu battu pour créer la poste, pour créer une maison de retraite, pour créer des commerces, pour avoir des lignes de bus. Donc il y a un peu toute cette dynamique-là qui existe encore aujourd'hui, quoi. Y compris qui a été associé, le comité de quartier avait été associé à la réhabilitation du quartier dans les années 80, dans le cadre d'une concertation sur la base de ce qui existait à Grenoble, ce qu'on appelait les GAM à l'époque.
Le journal se veut être une passerelle entre les habitants ces différents quartiers. En quoi est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les habitants se rencontrent dans les différentes associations ?
Alors, pour se rencontrer dans les différentes associations, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on est... Alors, nous, au niveau du comité de quartier, puisque je commençais par parler du comité de quartier, on a comme activité une commission cadre de vie, donc qui travaille sur le cadre de vie. On organise un vide-grenier, qui est notre ressource, en fait. On a le journal, puisque c'est nous qui sommes à l'initiative du journal, c'est nous qui gérons le journal, même si le financement est sur un compte à part, mais c'est nous qui le gérons, pour éviter de créer une autre association, en fait. Donc on a un certain nombre d'activités, et puis tout le reste se fait en interassociatif. Donc on participe notamment à la fête des diversités, qui est la suite de ce que nous, on faisait au niveau du comité de quartier il y a une dizaine d'années, qui était les Feux de la Saint-Jean. Et ça s'est transformé petit à petit en fête de quartier, et maintenant fête des diversités, donc avec la MJC, avec Antipode, avec le centre social. Bon, on retrouve toujours les mêmes associations, les trois maisons, c'est quasiment toujours les mêmes qui sont... Plus maintenant le BAM, qui le BAM, c'est un groupe d'associations qui s'est installé dans les anciens locaux de la MJC. Et c'est là où on a beaucoup de projets en émergence, en fait. Et donc des projets qui nous intéressent.
Ok. Et enfin, vous ne nous avez pas dit pourquoi le Pont Neuf s'appelle le Pont Neuf.
Alors, le Pont Neuf s'appelle le Pont Neuf, c'est parce que lorsqu'on a créé effectivement ce journal-là en 2004, c'est l'époque où la ville créait le quartier Neuf. Et on avait décidé effectivement de le créer. Je vous ai dit tout à l'heure que le premier journal s'était arrêté parce qu'il était géré uniquement par le comité de quartier de Clonay, et donc il n'y avait pas assez de rédacteurs, en fait. Et donc, on a fait le lien avec le comité Arsenal Redon, et entre les deux, il y a un pont. Donc, pont, voilà. Donc, derrière, effectivement, c'est venu assez vite, parce que notre objectif, c'était de faire du lien entre les deux quartiers, entre les habitants. Donc, l'idée de pont est venue assez rapidement, et puis quartier Neuf, voilà. C'est pas compliqué.
Tout est lié.
Voilà. Et le logo a été dessiné par Otero, qui était un artiste sur le quartier.
Bah, merci
espagnol.
Beaucoup.
Réfugié politique espagnol.
Ah,
voilà. Intéressant.
C'est voilà. Important de le préciser.
Bah oui, 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 tout à fait. Voilà.
Merci. Bah,
merci beaucoup.
Merci Jean-Yves Daniel, merci Aglaé pour cette interview. Tu restes avec nous, Aglaé, je crois, pour ta première chronique.
6 heures avant minuit.
Et oui, c'est la première chronique d'Aglaé, une chronique qui s'appelle Apocalypse Mémé, qui va nous parler littérature et sujets d'actualité. C'est bien ça, Aglaé ?
Tout à fait.
On t'écoute.
Aujourd'hui, nous nous intéressons au féminisme dans la littérature. Pour les personnes qui ne s'en souviendraient pas, voici une petite définition du féminisme par le Larousse. Le féminisme, c'est un courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce terme est apparu au XIXe siècle, mais ne vous y trompez pas, les idées féministes étaient présentes dans les écrits bien avant. Ça peut paraître évident, mais beaucoup ont l'impression que si un mot en lui-même n'existe pas, alors les idées qu'il véhicule non plus. Pourtant, on peut prouver le contraire, hein. On a de nombreux exemples comme Christine de Pizan, qui a vécu au XVe siècle et qui a écrit La Cité des Dames. Dans ce livre, elle prend conscience que sa vision d'elle-même est déterminée par les clichés de l'époque, ce qui est nouveau. Elle défait aussi les opinions misogynes des auteurs de son temps. Ce genre de livre peut nous paraître très lointain, mais c'est pourtant encore réellement actuel. Alors je veux bien croire que c'est potentiellement un peu dur à lire, l'écriture du 15e, ça commence à dater, mais je suis persuadée qu'on peut y trouver un écho à tout ce qu'il se passe en ce moment. Enfin bon, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu l'occasion de l'étudier à sa juste valeur. Juste quelques extraits par-ci par-là, et ce, alors même que j'ai fait des études de lettres. Je n'ai pas non plus étudié Monique Wittig, qui a écrit entre autres le célébrissime Corps lesbien, ni Angela Davis, ni Virginia Woolf, ni Judith Butler, ni Toni Morrison, seulement quelques extraits. C'est quand même bizarre qu'en 2024, il n'y ait pas de cours dédié aux écrits féministes à l'université. Quelques profs répètent à longueur de temps que les œuvres des femmes, et encore plus les œuvres féministes, ont été invisibilisées et décrédibilisées, mais on ne les étudie pas pour autant, ce qui, entre nous, est un peu ironique. Croyez-moi, le féminisme a encore de beaux jours devant lui dans les facs. Ça me fait justement penser à un professeur qui nous avait demandé pour un partiel, sans nous prévenir évidemment, d'analyser une scène de viol dans Les Liaisons dangereuses. Lui, ça ne l'avait absolument pas choqué. Il disait qu'il faut savoir tout analyser. Tout était normal, visiblement, mais prévenir et potentiellement ne pas mettre ce genre de scène pendant une épreuve, ce n'était pas si compliqué. Enfin bref, vous me direz certainement, tu peux te renseigner toute seule, et je suis bien d'accord. Il y a plus d'un an, j'ai fait une découverte, Virginie Despentes et son essai King Kong Theory. Il a fallu que ce soit un gars qui me le conseille. C'était une réelle révélation, un coup de poing, creux comme il fallait. Si vous êtes un peu conservateur, franchement, je vous le conseille, ça va vous réveiller. Tout de suite, le premier paragraphe du livre, histoire de vous en montrer un peu la couleur.
J'écris chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là, pour que les choses soient claires. Je m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
Et bon, résultat de mes études, j'ai appris beaucoup de choses, mais quasi rien sur les écrits féministes. J'ai bien étudié en long et en large Corinne ou l'Italie de Madame de Staël, et je l'ai bien aimé, mais c'est un féminisme tragique qui nous laisse un peu sur notre faim. Une histoire d'amour entre Oswald, un lord anglais tiraillé par le souvenir de son père, et Corinne, célèbre poétesse supposément italienne. Alors je vous préviens, attention aux larmichettes pour la conclusion. Enfin, si comme moi vous souhaitez en apprendre plus sur le féminisme dans la littérature, vous pouvez toujours participer le week-end prochain au festival Dangereuses Lectrices, au programme Conférences, Ateliers et Rencontres. Au final, vous en saurez plus sur les luttes féministes dans les livres que moi en 3 ans de licence. C'était Apocalypse Mémé, vous aurez trouvé la référence à Apocalypse BV de Despentes, votre nouvelle chronique littéraire apocalyptique à retrouver une fois par mois.
Merci Aglaé.
Incroyable.
À dans un mois du coup. En attendant, je crois qu'il faut qu'on se passe un petit coup de fil, vous à l'autre bout du poste et nous.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Vous avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous dont vous voulez nous faire part, une déclaration d'amour, un coup de gueule, un retour sur nos reportages, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être sûrement diffusé à l'antenne. Merci de nous avoir écoutés. Merci Ulysse pour la technique. C'était une première, mais sûrement pas une dernière. Hein. Quant à nous, on vous dit à demain.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.